Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Qui c'est le plus forte, et plutôt, devrais-je dire, qui c'est la plus forte. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus grande sportive de l'histoire. Pour échanger autour de moi, Camille Pain, consultante Eurosport, Glenn Cellier et Laurent Bergne, tous les deux journalistes Eurosport. Bonjour, mesdames, messieurs.
Salut Adrien, bonjour à tous.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify en passant par Deezer ou Apple Podcast. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser des commentaires, ça nous permet toujours de nous améliorer. On va commencer tout de suite, vous allez me dire en un mot ou en deux mots, prénom, nom, quelle est la plus grande sportive de l'histoire selon vous? Et on va commencer par Camille.
Steffi Graf, mon cher Adrien.
Steffi Graf. J'ai l'impression que c'est un sport que tu maîtrises plutôt bien.
Ouais, qui m'a inspiré à un moment dans ma vie.
Glenn Cellier, quelle est la sportive que tu as choisie, toi?
Alors, moi, c'est Mildred Didrikson Zarias.
Tu nous en diras un petit peu plus dans quelques instants. Le teasing est parfait, en tout cas. Et Laurent Berg?
Moi, ce sera Nadia Comaneci.
Trois sportives, trois sports différents. Ça n'a pas été évident, pour pas vous cacher, pour rien vous cacher, sur comment définir, comment choisir une athlète. Tout simplement parce que pour choisir la plus grande sportive de l'histoire, il y a plusieurs critères qui rentrent en compte. Évidemment, il y a la performance, c'est évident, mais pas que. Qu'est-ce que vous auriez envie de mettre, vous, dans la définition d'une plus grande championne sportive de l'histoire, Laurent, par exemple?
Alors pour moi, effectivement, ce n'est pas qu'une question de performance. Évidemment que les trois sportives dont on va parler aujourd'hui sont toutes des très grandes championnes qui ont cumulé beaucoup de victoires, beaucoup de titres. Mais pour moi, ce n'est pas que ça, et j'ai même envie de dire que ce n'est pas le plus important. Moi, ce qui m'intéresse dans le sport, dans les champions, dans les championnes, c'est au moins autant le personnage, l'humain, l'histoire qu'il y a derrière, comment ces femmes et ces hommes se sont construits, sont devenus ces champions et leur parcours personnel. Et c'est pour ça, en grande partie, que j'ai choisi Nadia Comaneci, parce que pour moi, elle est indissociable, le parcours de la championne est indissociable de celui de la femme, de l'enfant, de l'adolescente, puis de la femme, qui a grandi à une époque particulière, dans un système particulier, et qui a dû s'affranchir aussi de ça. Et je suis autant fasciné presque par son parcours personnel que par les performances de la championne.
Nadia Comaneci, commençons par elle. Hein. C'est évidemment ce que les gens retiennent en premier, c'est les JO de Montréal en 76, et c'est ce 10 obtenu au bar asymétrique qui en font une championne olympique, une des plus jeunes championnes olympiques hein, de l'histoire. Elle avait à peine 15 ans.
Elle avait 14 ans, ouais.
Ça a été l'éclosion aux yeux du monde, ça, Laurent. Ça a été quelque chose. Comment ça a été perçu?
D'abord, je pense que c'est une des images, une des photos les plus célèbres de l'histoire des Jeux. Cet écran qui s'affiche à Montréal avec le 1.00, puisqu'il n'y avait pas de. C'était pas prévu pour un 10, pour la note parfaite. Donc, c'est une image très marquante. Moi, j'avais un an en 1976, donc je n'ai pas connu les Jeux de Montréal, en tout cas, je ne me souviens pas. Donc, j'ai vécu, après coup, l'histoire de Nadia Comaneci, ses performances. Mais il y a plusieurs choses chez Comaneci. Je parlerai après de son parcours personnel. Mais pour parler vraiment de la sportive, il y a plusieurs choses. D'abord, évidemment, il y a la performance pure. Ce qu'elle fait à Montréal, ça marque les esprits. C'est sidérant, c'est stupéfiant. Elle fait faire un bond de dingue à son sport. La gymnastique n'était pas un sport très grand public. Et je pense que beaucoup de gens, à partir de là, ont associé Nadia Comaneci à la gymnastique et vice-versa. Et elle fait partie de ces sportifs qui ont marqué un avant et un après pour leur discipline. Pour moi, c'est un petit peu l'équivalent de Michael Jordan en basket, de, je sais pas, d'Eddy Merckx en cyclisme, de Tiger Woods peut-être aujourd'hui, enfin ces dernières années en golf. Et pour moi, c'est un petit peu pareil comme Anetchi. Il y a un avant et un après comme Anetchi. Et puis, il y a une forme de... je ne sais pas comment je définirais ça, mais même quand je revois aujourd'hui les images de Comaneci, son second passage, notamment aux barres asymétriques, pour moi, la force que ça dégage en termes émotionnels, c'est absolument... ça n'a pas pris une ride. C'était il y a presque 45 ans aujourd'hui. Mais je suis toujours aussi fasciné quand je regarde ces quelques secondes de Comaneci aux barres asymétriques. Et il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de la gymnastique. Ce n'est pas du tout mon cas. Je ne connais pas plus que ça, même plutôt moins. Mais quand je vois Comaneci, ben j'ai l'impression que ça me parle. Voilà, c'est aussi simple que ça, ça me touche. Et j'ai, même moi qui ne suis pas un spécialiste, si je regarde 3-4 passages aux barres asymétriques ou à la poutre derrière des Jeux de Montréal, ben, il est évident qu'il y a Comaneci et les autres. Donc il y a la difficulté technique, mais il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Voilà, pour moi, c'est un ensemble de choses et c'est plus ce que ça évoque en chacun de nous. Et moi, quand je vois Comaneci, aujourd'hui encore, je trouve qu'il y a quelque chose d'unique, d'absolument unique.
Camille ou Glenn, Nadia Comaneci, ça vous évoque aussi quelque chose d'incroyable, d'unique, il y a eu un avant, un après Comaneci. Camille, par exemple, toi, qu'est-ce que ça t'évoque
Moi, en fait, quand j'ai commencé le tennis, je faisais de la gymnastique. Donc à 5-6 ans. Donc j'ai pas été bercée non plus complètement dans ce milieu parce que c'est vrai que ma famille était plutôt tennis, mais je me suis quand même intéressée. Et moi, en tant que jeune fille, évidemment, bah, c'était une légende dans ce sport-là, évidemment. Mais moi, c'était la prise de risque de ces jeunes filles qui avaient que 14-15 ans qui me laissaient complètement sans voix parce qu'on pratique un sport pour le plaisir. Mais quand je regardais ce qu'elles étaient en train de faire, je dis non, mais là, elles sont complètement malades. Donc, il y avait aussi ce modèle pour moi de cette championne-là et des autres gymnastes. Ben, elles ont beau avoir un jeune âge, elles ont dépassé leur peur. Et moi, ça m'a construit tous ces sports-là, quand je regardais, m'ont construite aussi pour la suite. On va dire qu'en fait, on ne va pas attendre 30 ans pour aller au-delà de ce qu'on peut faire. Et la gymnastique, je trouve que c'est un sport qui, justement, montre qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut travailler, il ne faut pas réfléchir.
Et Comaneci, c'est intéressant ce que tu dis, Camille, parce que Comaneci, elle est vraiment le symbole de ça. Elle a été formée donc, par Bella et Marta Caroli, qui se sont ensuite exilées aux États-Unis, qui sont devenus les entraîneurs les plus célèbres et controversés de l'histoire de la gym. C'était une discipline de fer, mais elle explique, elle s'y est complètement retrouvée là-dedans et dans la notion de prise de risque, elle allait toujours plus loin que ce que demandait Bella Caroli, qui pourtant en demandait beaucoup. Donc cette notion de dépassement de soi, elle se l'est presque imposée naturellement à elle-même. Et je pense qu'une championne de ce niveau, ça, c'est un être humain pas tout à fait comme les autres. Je pense que c'est ça le point commun en fait entre tous les plus grands champions de l'histoire ou champions ou championnes, peu importe le sport, peu importe les époques, sont pas tout à fait comme Glenn et moi encore moins, mais même que par rapport à des gens qui ont été des sportifs de très haut niveau comme Camille, c'est encore quelque chose d'autre. Et je pense que je sais même pas si ça s'apprend. Évidemment, il y a le travail, mais il y a une détermination à la base. Elle explique, Comaneci, dans son autobiographie, que quand elle était gamine, elle était méticuleuse à l'extrême, mais dans tout. C'est-à-dire que c'était presque compulsif. Ça faisait peur à sa mère dans sa façon de ranger ses affaires. Quand elle était à l'école, elle mettait toujours, elle explique, ses stylos bleus à un certain endroit, ses stylos noirs, sa gomme toujours au même endroit. Et on la prenait un peu pour une dingue. Hein. Et elle explique que... oui, c'était un peu anormal, mais elle dit la normalité mène à la normalité. Moi, j'ai toujours voulu être extraordinaire. Et finalement, dans sa manière d'aligner ses stylos sur son pupitre à l'école ou de faire ses exercices sur les agrès, elle n'était pas comme les autres. Et je pense que c'est ce qui explique aussi qu'elle soit devenue Nadia Comaneci, même s'il y a une part de talent, beaucoup de travail. Mais il y a quelque chose de différent quand même dans sa personnalité.
Il y en a une qui aligne, pas les stylos, mais qui aligne les titres en grand chelem. C'est ton choix, Camille, c'est Steffi Graf. Steffi Graf, c'est 22 titres en grand chelem. Alors aujourd'hui, ça paraît presque pas normal, je dirais, parce que Serena Williams en a un de plus. Mais avant, il y avait Margaret Court Smith qui avait 24 titres du grand chelem et il y avait Steffi Graf qui en avait 22. Et au-delà de ça, Steffi Graf, c'est une longévité au plus haut niveau. C'est quelque chose de fabuleux.
Oui, alors c'est vrai qu'on se souvient surtout de nombre de grands chelems dans les records, donc avec Serena qui est pas loin de. Mais il se trouve qu'elle est juste derrière Steffi Graf à 22. On dit bon, alors elle est de, c'est du même acabit que Serena Williams. Mais en fait, elle a le record de longévité numéro un mondial. Elle est restée 377 semaines et 8 saisons consécutives numéro un mondial, alors que Serena, elle est restée que 319 semaines. Donc elle est quand même loin du record de Steffi Graf. C'est une joueuse aussi qui a eu des records tous sexes confondus. Elle a enchaîné 4 fois un doublé Roland Garros, Wimbledon. Enfin, elle a un nombre voilà, de records qui montrent qu'au niveau du palmarès, c'est effectivement une joueuse qui peut être une joueuse de légende bien au-delà de tout ce qu'elle peut représenter. Et alors, j'ai choisi Steffi parce qu'elle a ses records, on le disait avec Glenn et avec Laurent. Il faut quand même un palmarès qui fait qu'à un moment, elle nous a fait rêver. Ça, c'est sûr. Par contre, je l'ai choisi parce qu'à 6-7 ans, lorsqu'elle gagne justement son premier Roland-Garros, c'était en 87 sur Navratilova. Moi, je regardais Roland et ben, direct, je suis allée acheter sa tenue de son équipementier de l'époque. Alors, ça m'arrivait en dessous des genoux. Je ne pouvais même pas jouer avec parce que c'était trop grand, mais je voulais absolument la tenue de Steffi Graf. Et donc, ce sont des images lorsqu'après, on devient professionnel. On se dit, ben, en fait, il y a des gens qui vous inspirent. Et moi, Steffi, ça a été justement une image d'une joueuse extrêmement sobre dans ce qu'elle pouvait, très professionnelle, mais simple dans sa manière d'être sur le terrain, très élégante. Ça, moi, ça me plaisait de voir une sportive comme ça. Je trouve, un esprit sur le terrain. Je me disais, en fait, je peux être très forte sans forcément être un bulldog sur le terrain et avoir envie d'insulter mon adversaire. Et c'était quelque chose qui, par rapport à mon éducation et ma manière d'être, moi, m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, voilà, elle peut être la plus grande joueuse de tous les temps tout en faisant bien.
Ouais, il y avait plusieurs choses.
Dans des matchs, mais sans forcément.
Tu disais Roland Garros 87, son premier titre, jusqu'à Roland Garros 90, elle a joué 13 finales consécutives de Grand Chelem.
Oui, non, mais c'est grotesque son palmarès. Franchement, enfin, allez voir un petit peu, c'est parce qu'on oublie, parce que pour moi, c'est le Roger Federer féminin. Parce qu'elle avait la grâce, elle avait le respect des gens, parce qu'on voyait qu'elle se mettait pas en avant, elle n'allait pas faire forcément des photos de mode toutes les deux minutes alors qu'elle aurait pu le faire avec ces gens magnifiques. Voilà. Il y avait tout cet aspect où elle faisait bien son travail, à l'allemande, mais on a l'impression qu'elle ne demandait rien à personne et qu'elle avançait, qu'elle faisait son chemin, et elle a fait un chemin incroyable. Et au-delà de tout ça, du côté humain dont tu parlais, Laurent, qui pour moi était important quand on s'est dit qui tu veux jouer ? Moi, j'ai envie de parler d'une championne qui m'a émue. Et donc, c'est le cas de Steffi. Mais il faut aussi une certaine histoire. Elle a quand même eu aussi un père difficile à gérer. Et je trouve qu'elle a très bien su rebondir sur sa fin de carrière, avoir une vie de famille très équilibrée avec André Agassi. Parce que ça aussi, la réussite d'une sportive, il y a son palmarès, qui elle est. Mais comment elle continue sa vie après avoir vécu des années dans un monde complètement parallèle ? Moi, je trouve que ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Et puis, il y a quand même des faits marquants dans sa carrière. C'est cette finale contre Ingis en 99 où il se passe tellement de choses. Le service à la cuillère d'Ingis qui craque, qui monte sur la chaise, qui passe de l'autre côté. Et elle, finalement, elle s'amuse un petit peu, mais sans manquer de respect à Martina Hingis. Mais il y a toute une espèce de... un écart entre la jeunesse d'Ingis et le professionnalisme de Steffi Graf en face. Enfin, voilà. Donc, il y a eu dans sa carrière plein de faits marquants qui font que c'est quelqu'un qui va rester dans la tête de tous les gens qui connaissent ou pas le tennis. Ça a été une joueuse de légende. Et moi, je suis fière de ce qu'elle a pu faire tout au long de sa carrière, vraiment.
On sent que ça t'a marqué, effectivement. En tant que joueuse de tennis, c'est évidemment, on sent que c'est un modèle, c'est un exemple sur lequel tu t'es appuyé. Laurent, Glenn, pour vous, Steffi Graf, c'est aussi cette grâce allemande, cette succession de succès, mais en même temps, cette retenue.
Moi, c'est ce que dit Camille. Moi, c'est vrai que c'est ma jeunesse, évidemment, Steffi Graf, et c'est cette élégance, cette sobriété, etc., qui a... oui, que j'admirais. C'est évidemment une sportive exceptionnelle et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. C'est vrai que moi, je me suis posé la question quand on a parlé du débat. Je me posais un peu la question entre Steffi Graf et il y avait Serena Williams aussi, où je m'interrogeais un peu parce que Serena, évidemment, en termes de titres, on sait maintenant à 23 majeurs, un de plus que Steffi Graf. Et je me disais, en termes de palmarès, voilà, est-ce qu'il ne faut pas placer Serena au-dessus? Et aussi parce que je m'interrogeais sur le côté dépassement de. Comment dire, elle dépasse un peu le cadre de son sport, j'ai l'impression, Serena. Je ne sais pas ce que Camille en pense là-dessus. Mais c'est vrai que je me posais vraiment la question. J'avais un vrai débat sur le côté est-ce qu'il faut plus parler de Serena ou plus parler de Steffi Graf? Mais c'est vrai que je comprends totalement le choix de Camille pour le côté élégance et. De Steffi Graf qui était une championne.
Après, Glenn, moi aussi, on se pose forcément la question. Après, quand on voit, à part cette différence de grand chelem, il y a vraiment, en termes de palmarès pour Steffi, moi, j'avais oublié, en fait. C'est pour ça que c'était intéressant d'aller farfouiller de temps en temps et de se remémorer. Elle a beaucoup plus de titres que Serena. Elle a beaucoup plus de longévité en place de numéro 1. Donc, en palmarès, ça pouvait s'équilibrer. Après, moi, ce que je trouve d'incroyable chez Serena, c'est que c'est une personnalité. On va dire que Steffi, c'était par la sobriété. Et c'est vrai qu'après, on est chacun différent. D'autres vont adorer Serena parce qu'elle est extravagante, parce qu'elle va mettre des coups de poing dans tout ce qui bouge. Et voilà. Après, moi, personnellement, je me rapproche plus de l'état d'esprit de Serena. Mais il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est-à-dire que je pense que Serena, si elle n'a pas été élevée comme ça en mode boxeuse, elle n'arrive jamais à l'immense championne qu'elle est. Donc, après, c'est vraiment du feeling et ça sera à quelqu'un d'autre de défendre Serena. Voilà. Mais en tout cas, je peux tout à fait le comprendre qu'on se pose la question parce que Serena apporte quelque chose de différent, de très punchy au tennis et je pense qu'il fait du bien.
Et Steffi Graf, elle a quand même aussi cette année 88 absolument incroyable qu'on n'est pas prêt de revoir, à mon avis, où elle fait le grand chelem et où, en plus, elle est championne olympique. C'est quand même une saison assez invraisemblable. Moi, Steffi Graf, j'étais très, très fan de Graf. J'ai grandi un peu aussi avec elle. Ce que je trouve assez, on parlait de personnalité et de l'humain derrière la championne, ce que je trouve très intéressant avec Graf, c'est l'évolution. Camille disait, on l'a vu arriver à 15-16 ans, elle était déjà au top. Elle a 17 ans quand elle gagne son premier tournoi du Grand Chelem. Et moi, j'ai le souvenir d'une championne déjà très impressionnante, mais d'une jeune femme pas complètement épanouie, qui avait l'air très, très timide, pas toujours à l'aise en dehors du court. Ça se sentait, c'était presque palpable. Et 12 ans après, quand elle gagne son dernier grand chelem en 99, Camille en parlait avec cette finale inoubliable contre Martina Hingis, pardon. Mais là, c'est tout le contraire. On sent que voilà, elle va avoir 30 ans. C'est devenu une autre personne qui est toujours aussi impressionnante tennistiquement, mais qui en impose en plus, je trouve. Elle a une forme d'autorité. Ce jour-là, c'est pas tennistiquement qu'elle bat Martina Hingis. C'est la personne qui va prendre le dessus sur cette gamine qui est encore Hingis. On l'a oublié, mais elle était toute jeune, même si elle était là depuis un petit moment. Et c'est là-dessus qu'elle se fait bouffer ce jour-là. Donc ça, c'est quand même l'évolution d'une personne dans un milieu. Je pense que Graf, c'était un peu comme Becker. Ils se sont retrouvés, il ne faut pas oublier que le tennis en Allemagne, c'était rien avant Becker et Graf. Ils se sont retrouvés propulsés au rang de stars vraiment dans leur pays. Becker a expliqué, il a dit un jour qu'il ne comprenait plus les Allemands, qu'il trouvait ça complètement délirant. Et Graf, c'est un peu la même chose. Voilà. Heureusement pour elle, Becker était passé juste avant, ça a peut-être un petit peu atténué ça, mais elle a quand même dû composer avec ça, et je pense que ça n'a pas été évident. Moi, je voudrais quand même poser une petite question à Camille. Tu disais que pour toi, Graf était un peu au tennis féminin, ce que Federer est au tennis masculin. Alors, pour titiller un peu,
J'attendais Federer, une réponse de ça. Hein. Je titille, messieurs.
Federer a trouvé son Nadal et son Djokovic. Et Steffi Graf, elle avait trouvé aussi son Djokovic, qui s'appelait Monica Seles, et qui, voilà, on a eu un début de rivalité au début des années 90, qui était vraiment extraordinaire, quelques-unes des plus belles finales de Grand Chelem chez les femmes. On les doit à Graf et Seles au début des années 90, et puis on sait tout ce qui est arrivé à Monica Seles en 93, ce coup de poignard qui l'a vraiment arrêté en pleine ascension. Est-ce que tu penses que le palmarès de Steffi Graf aurait été le même, ou presque le même, s'il n'y avait pas eu cet incident de Monica Seles? Et est-ce qu'elle n'aurait pas été vraiment dominée durablement par Seles? Alors évidemment, c'est difficile de répondre, mais c'est quand même, je trouve, le seul. Elle y est pour rien, bien sûr, mais dans sa carrière, et quand on parle de son palmarès, c'est quand même un élément qui pour moi, est assez important.
Mais c'est bien que tu le soulignes parce que, comme on dit, une légende, c'est une histoire. Elle est tombée dans cette période de l'histoire où il s'est passé ce drame avec Monica Seles. Donc, c'est difficile, effectivement, de dire quelque chose là-dessus. En revanche, je pense qu'elle aurait eu beaucoup plus d'adversité et que je pense que son palmarès aurait peut-être été un petit peu moins riche parce que Monica Seles avait un jeu, je dirais, beaucoup plus tourné vers ce qui se passe maintenant. Un jeu où elle lui rentrait dedans en permanence avec beaucoup, beaucoup d'intensité. Et que je pense qu'avec peut-être aussi les années passant, Steffi Graf, comme tu disais, s'est épanouie personnellement. Elle avait peut-être à un moment donné ce déficit de puissance par rapport à une Monica Seles qui arrivait avec ce jeu complètement dingue à deux mains. Et effectivement, je pense que ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué. Mais après, c'est l'histoire qui a voulu ça. Et aujourd'hui, bah, c'est sûr qu'on voit un Roger avec les Djoko et les Nadal. Mais après, il y a Murray qui s'est, avec sa hanche, qu'est-ce qui serait passé si Murray, je sais pas, avait pu éclater plus tôt. Enfin, après, c'est difficile de jauger par rapport à d'autres. Mais je pense que Monica Seles aurait posé énormément de soucis par rapport à son style de jeu, ce qu'elle amenait de nouveau dans le tennis, ça c'est sûr.
Il y avait déjà un côté 21e siècle chez,
ouais,
chez
qui Céleste. Était complètement novateur à l'époque. On s'est dit, c'est quoi cette fille qui arrivait, qui frappait sur tout, qui criait sur tout? C'était nouveau, c'était un autre style de tennis. Et c'est elle qui l'a amené. Alors que Steffi Graf, c'était le revers à une main, le revers slicé, c'était vraiment l'ancien tennis, mais qui a embêté parce que quand on voit l'époque où elle a joué en 99, il y avait des Lindsay Davenport, c'était un tennis déjà beaucoup plus moderne. Et malgré cela, elle a réussi à embêter jusqu'à au moins 1999. Donc son jeu était ancien mais quand même efficace face à ces nouvelles joueuses qui arrivaient, qui frappaient beaucoup plus fort qu'elle, quoi.
Que tu ne penses pas qu'elle aurait été capable de faire évoluer son jeu face à ces nouvelles contraintes ou
Oui, je pense, de toute façon, elles se font toutes progresser, toutes ces légendes, quand elles arrivent, et avec des générations elles arrivent à passer quelques années ensemble, on progresse grâce à ce qu'il y a en face. Ah ben non, mais là je peux plus jouer carré de service parce que là maintenant c'est plus possible. Ah ben non, mais là je peux plus jouer à 1 mètre de la ligne de fond parce que je prends un coup gagnant. Donc en fait, ben non, faut que je joue à 2 cm pour que ça, je me protège. Donc tout ça, c'est grâce aux autres. Il y a du travail, mais il y a aussi cette confrontation permanente. Donc je pense effectivement, Glenn, qu'elle aurait peut-être trouvé d'autres armes, peut-être plus de longueur, plus de montée au filet pour compenser. Mais elle aurait eu la tâche peut-être un petit peu plus compliquée avec une Monica Seles en permanence à chaque grand chelem qui allait la pousser dans ses retranchements. Ouais. Donc, peut-être que voilà, son palmarès de 107 titres et toutes ces semaines numéro 1 auraient été peut-être plus compliquées à acquérir, effectivement.
Elle a dominé cette fin du 20e siècle. Vous avez choisi, Laurent et Camille, deux athlètes plutôt de la deuxième ou dernier quart du 20e siècle. On va faire un bond en arrière, un grand bond en arrière, pour parler de Mildred Didrikson-Zarias. Glenn, c'est ta sportive, la plus grande sportive de l'histoire. Elle a été élue d'ailleurs plus grande athlète du 20e siècle par l'Associated Press, et même le magazine Sports Illustrated l'avait choisie comme athlète féminine du siècle à la fin du 20e siècle. Alors, pourquoi ce choix, Glenn ?
C'est compliqué. En fait, je me suis posé la question, évidemment, quand on a vu, on a proposé de faire ce podcast, je me suis un peu interrogé. J'avais évidemment des profils plus modernes en tête, notamment ce que je viens de dire. J'avais Serena Williams, j'avais Steffi Graf. Évidemment, Nadia Comaneci pouvait intervenir. Et puis, il y a un moment, ça a fait tilt. Je me suis rappelé de certaines biographies que j'avais lues quand j'étais enfant, et je me suis souvenu exactement du trou de Mildred Didrikson-Zarias, qui a un parcours dingue et une histoire. En gros, elle a commencé, elle faisait du basket au lycée. Et pour vous dire à quel point, en gros, dès qu'elle a touché une nouvelle discipline, elle a dominé de manière agressive et violente, parce que c'était vraiment sa manière d'être, en plus, sur un terrain de jeu. Donc, elle a fait du basket. Elle a été élue dans le All-American Team au lycée, qui est la sélection, en gros, des meilleurs joueurs américains pendant 2 ans. Après, elle s'est tournée vers l'athlétisme. Là, elle a été, en gros, elle a fait les compétitions pour participer aux Jeux Olympiques. Elle a été sélectionnée dans 5 épreuves. Sauf qu'à l'époque, il y a une règle qui dit, non, vous pouvez disputer que 3 épreuves quand vous êtes une femme. Donc, elle doit en sélectionner 3. Elle se présente à 3 épreuves, le 80 mètres et le javelot, où elle va gagner la médaille d'or, et le saut en hauteur. Le saut en hauteur, en gros, elle bat le record du monde avec une autre athlète américaine qui s'appelle Jean Shirley, si je me souviens bien. Et en gros, elles sont obligées de faire un saut supplémentaire. Et là, pour une histoire de règles un peu obscure, où en gros, elle passe la tête en première, les juges disent que son saut n'est pas valide, ce qui est assez hallucinant maintenant. Et donc, elle se retrouve qu'avec la médaille d'argent, alors qu'elle avait fait vraiment la même marque que son adversaire. Donc voilà, il y a ça. Après, elle perd son statut d'amateur. Elle brille dans le baseball, où elle fait des exhibitions face aux hommes, etc. Elle brille au basket. Et puis un jour, elle décide de se mettre au golf, dans les années 35, 1935 à peu près. Et là, elle ravage tout sur son passage. Juste pour vous donner une petite idée, elle gagne 82 tournois en tout, dont 41 comme professionnelle. Elle est limitée à un moment parce que justement, elle perdait un peu son statut d'amateur alors que les golfeuses n'étaient pas pros. Du coup, comme elle avait été payée pour jouer au basket, à un moment, en gros, elle avait perdu son statut d'amateur. Mais elle revient après sur le parcours. Il y a le circuit pro qui se crée. Là, elle gagne 41 titres, dont 10 majeurs. Elle a une histoire hallucinante. Évidemment, elle était très, très critiquée à l'époque parce qu'elle était dans une société très machiste. Les journaux lui ont laissé peu passer pour son manque de féminité, etc. Elle a dû combattre tous ses préjugés. Après, elle n'était pas du tout féministe. Elle était vraiment elle faisait du sport parce qu'elle aimait ça. Et c'est ça que j'aime. C'est son amour du sport, sa détermination, son envie. En fait, elle avait dit quand elle était jeune, elle voulait être la meilleure sportive qui a jamais existé. Et pour moi, elle y est vraiment parvenue parce que c'est une époque où être une femme dans les années 30 et être sportive, c'est pas évident. Et elle a réussi à dépasser ses codes. En plus, pour la petite anecdote, elle est décédée à 45 ans d'un cancer du côlon et elle a combattu la maladie. Elle a continué de jouer au golf. Elle a gagné un majeur qu'on ait détecté sa maladie. Voilà, elle incarne pour moi la polyvalence, le dépassement de soi, la détermination. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler d'elle et j'avais envie, en gros, de dire que c'était la plus grande sportive qui a jamais existé.
Mmh. Voilà. C'est beau. On a bien écouté religieusement. Tu nous as presque convaincu. Est-ce que tu es convaincu aussi, Camille et Laurent, ces belles histoires?
Je ne connaissais pas cette athlète. Donc, merci Glenn, parce que là, tu as fait ma journée, tu m'as bluffé, parce qu'en fait, ce sont pas, pour moi, c'est un personnage que tu racontes, parce qu'on se rappelle quand même que dans ces années-là, chacune femme fasse du sport, enfin, vu que le droit de vote est arrivé bien après, vous imaginez, donc elle a mis le pied dans la fourmilière et c'est vraiment une pionnière de tout ce que le sport derrière féminin a pu apporter. Et moi, en tant qu'athlète qui ai pu vivre de mon métier, je considère cette personne-là comme mon maître, finalement. J'aime le sport, moi. On peut être femme et aimer le sport, aimer se dépenser et faire toutes sortes d'activités. Moi, ça me parle parce que j'ai été élevée aussi en faisant tous les sports possibles. Et c'est pas juste une femme va faire de la danse ou va rester dans une activité. Donc, je pense qu'elle a été pionnière et ça fait du bien d'entendre. Et un bel hommage à cette athlète incroyable et cette femme incroyable qui a défendu les couleurs du sport féminin.
Laurent, pour conclure.
On est en plein dans ce qu'on disait tout à l'heure, ce que j'évoquais au début, c'est-à-dire que évidemment il y a la performance du palmarès, mais finalement c'est presque pas le plus important. Évidemment qu'on n'aurait pas parlé aujourd'hui de championnes qui n'avaient pas dominé leur sport, parfois au pluriel, comme vient de nous l'expliquer Glenn. Mais ce qui fait la différence, je pense vraiment, c'est l'écho que ça éveille en chacun de nous, et l'histoire et le parcours personnel. L'histoire d'Arès me fait un peu penser chez les hommes, à Jim Thorpe, qui était un athlète très polyvalent au début, juste un petit peu avant, dans les années 10 plutôt. Un sportif complet, qui faisait de l'athlétisme, qui a été champion olympique, qui faisait du foot américain, qui a aussi eu un problème, il a été banni, il a même dû rendre ses médailles olympiques parce qu'il avait perdu son statut amateur, mais voilà, c'est un petit peu la même histoire. Et c'est vrai que le sport de la première moitié du XXe siècle est quand même très, très masculin. On a quelques exemples, en tennis notamment, Suzanne Englen, Hélène Wills Moody, qui ont un petit peu cassé les codes et qui restent finalement, un siècle après, de véritables légendes, et pas des légendes tant pour leur palmarès que pour ce qu'elles étaient, ce qu'elles incarnaient et ce qu'elles ont permis en termes d'avancée à tout point de vue sportif, culturel, etc.
Très bien. Merci à tous pour cette participation au podcast « Qui c'est la plus forte ?» Je crois que Glenn, il a mis tout le monde d'accord.
Ah ouais, là, on la connaissait pas et il nous a déchirés.
On va aller vous lire des histoires, une biographie, etc. Parce que c'est vrai que c'est un personnage assez passionnant.
Plongez-vous dans les récits sur cette femme, mais également sur Nadia Comaneci ou sur Steffi Graf. Il y a des merveilleuses choses à découvrir encore. Merci d'avoir participé à ce podcast. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes de diffusion, d'Acast à Spotify, en passant par Deezer ou même Apple Podcast. On vous dit à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut.
Salut.
Salut. Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.